Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec, comme chaque jour jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir.
Bienvenue à vous. On va se reparler de ces masques, de ces gels, de ce risque de pérennité du coronavirus, donc dans un petit instant. Pénurie, hein, pardonnez-moi. Mais d'abord, je voudrais filer outre-Atlantique, parce qu'il s'est passé des choses cette nuit, et vous connaissez parfaitement ça, notamment Gérard Carrérou. Joe Biden, la remontada, la résurrection. J'avais Léa Pizarre il y a un instant dans ce studio. Alors, Léa Pizarre, clairement, on a compris hein, qu'elle était dans une vraie satisfaction. Bien sûr, il se passe des choses très nettes là. Et pour Joe Biden, il y a de quoi sourire.
Oui, je crois que le mot résurrection est juste parce qu'il était effectivement mort comme candidat. D'ailleurs, il n'est pas en bonne santé, mais il a eu des accidents cardiaques très graves.
Trump l'appelle Sleepy Joe.
Mais il était mort politiquement, comme on dit. Comme quoi, d'ailleurs, on n'est jamais mort politiquement tant qu'on n'est pas vraiment. Donc, il était pourquoi ? Parce qu'il avait fait. Il était responsable de ça. Il avait commencé très mal une campagne. Il était assez nul dans les débats, etc. Donc il perdait tout ce qu'il voulait. Et puis il y a eu, en fait, ce qui s'est passé. C'est pas tellement lui qui a été formidable. Puisqu'il a même gagné dans des États où il n'est même pas mis son nez, même pas fait campagne. Et il n'avait pas un sou pour faire sa campagne. Ce qui s'est passé, c'est un phénomène d'électeurs. Les électeurs démocrates, ils n'ont qu'un souci. Moi, j'en connais beaucoup, parce que je vais souvent là-bas. Les électeurs démocrates, ils veulent se débarrasser de Trump. Et ils ont vu que Bernie Sanders, peu à peu, grignotait et qu'il allait probablement être le candidat, puisqu'il était le super favori. Et ils ont dit, c'est pas possible. Et en 48 heures, et tous les journalistes américains, j'ai écouté des tables rondes toute la journée, les journalistes américains qui avaient enterré effectivement Joe, ont dit, en 48 heures, il y a eu un basculement des électeurs. Ils ont fait ce qu'on appelle en France un vote utile. Ils se sont dit, celui-là, c'est le meilleur, enfin, c'est le moins mauvais pour battre éventuellement Trump. Car Sanders, socialiste qui veut instaurer en Amérique un programme à la française ou à la danoise, ou avec l'impôt sur la fortune, avec un système de santé qui coûtera des milliards de dollars, etc. Sanders, il n'a aucune chance d'être élu. Il y a un plafond. Comme on disait pour Marine Le Pen, il y a un plafond de verre. Et bien, il y avait pour Sanders un plafond de verre, et là, le plafond a crevé. Maintenant, c'est Biden qui a récupéré.
Alors, Charles Villeneuve et Catherine, et Charles Villeneuve, le plafond de verre, il est en train de le crever, mais tout n'est pas gagné. Hein. On ne va pas non plus s'emballer.
Parce qu'il semble, on n'a pas les résultats définitifs, que la Californie, qui a un nombre très important et considérable de délégués, Bernie Sanders semble l'emporter assez nettement. Et peut-être que là, ce sera quand même difficile de rattraper le nombre de délégués. Pas impossible, mais difficile. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué, Gérard, et là, tu me diras si c'est le statut de vice-président d'Obama qui l'a aidé, notamment Joe Biden dans les États du Sud, où les Afro-Américains ont voté en masse pour Joe Biden, pour l'ancien vice-président d'Obama.
Permets que je te réponde, en une seconde, c'est tout à fait ça. Il a le bloc noir, mais solide, comme on dit en anglais, et ce solid bloc. Les communautés noires américaines,
c'est compréhensible, ça, comme expression.
Les communautés noires américaines font bloc autour de lui parce que c'est le souvenir et la nostalgie d'Obama.
Et ça, c'est vraiment
il est l'héritier spirituel de la politique d'Obama vis-à-vis de
lui. Et ça, c'est ce qui fait trembler Donald Trump. Ça lui fait clairement défaut.
Ah bah oui, parce que lui, il n'en a pas beaucoup de noirs qui votent pour lui, ça c'est sûr.
Oui, mais cette nostalgie Obama n'avait pas joué pour Madame Clinton, parce que Obama était le président sortant, et quand un président vient de sortir, il est toujours moins populaire. Mais aujourd'hui, dans l'électorat démocrate, on se dit que c'était le bon temps, du temps d'Obama. Il parlait de manière comme ça, intelligente. Enfin, c'était l'anti-Trump. Et donc, il y a cette nostalgie profonde. Et ça profite aujourd'hui à
Bernie Sanders, le socialiste Bernie Sanders.
À Joe Biden, qui est vraiment...
Qui
lui aussi est un homme bien élevé. Ouais. Enfin, mais très gaffeur aussi. Qui, quand même, il est très, très... Quand même, un soir de sa victoire hier, il a confondu sa femme et sa soeur.
C'est quand même énorme. Charles, vous permettez dans une seconde, et vous prenez la main.
Oui, Nathalie.
Merci, Charles. À tout de suite. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous ce soir, Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et toutes vos réactions bien sûr en direct au 3921 ou sur Twitter hashtag Europe 1.
Et Charles Villeneuve, on a été interrompu brièvement, mais bien sûr la question outre-Atlantique à l'heure qu'il est, quand on voit cette victoire au Super Tuesday et puis le ralliement du milliardaire Michael Bloomberg à Joe Biden dans la foulée, c'est se dire, bah voilà, maintenant Donald Trump en face de Biden ou en face de Bernie Sanders, qui lui fait le plus peur?
Moi, je pense, plus peur. Je ne pense pas qu'il ait vraiment peur.
Façon de parler,
d'ailleurs, le dernier tweet qu'il a envoyé, il a encore surnommé Joe Biden.
Oui, Joe l'endormi.
Sleepy Joe l'endormi.
Oui,
il le fait depuis des mois.
Oui,
non, mais c'est
ça.
Quand même assez incroyable, quoi. C'est dire le niveau quand même de l'échange.
C'est Donald Trump à la fois.
Oui. Mais cela étant, la course n'est pas encore jouée quand même chez les démocrates, c'est-à-dire entre Bernie Sanders qui vante les mérites de la Russie, non pas la Russie d'aujourd'hui, la Russie soviétique et Cuba. Alors pour l'électorat moyen quand même américain, je ne pense pas qu'il puisse vraiment faire peur. Je pense que même Trump n'a pas la moindre crainte d'un adversaire comme Sanders. Pour Biden, c'est quand même plus difficile, peut-être pas... facile, je ne crois pas. Et moi, je pense qu'on a sous-estimé en 2016 complètement Trump et que peut-être aujourd'hui, on est en train de le surestimer.
Voilà, c'est toute la question aussi, Catherine et évidemment Gérard Carrérou, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump, c'est quand même aux États-Unis une économie florissante.
Avec des petits fléchissements avant le coronavirus.
Oui, mais globalement, si on est fair play,
le plein
on peut
emploi,
pas.
Oui,
voilà,
oui.
Si on est fair play, on peut dire que c'est quand même le plein emploi. C'est qu'aujourd'hui, il va sur tous les terrains où il est attendu pour désamorcer. Il discute avec les grands de ce monde avec qui les États-Unis ne dialoguaient pas. Il va là où il était aussi.
Mais il ramène les soldats, il va ramener les Américains d'Afghanistan.
Il négocie avec les talibans.
Contrairement à ce qu'on avait dit au début, il a déclenché. On disait celui-là, il va faire la guerre partout.
Il a fait exactement le contraire.
Il a ramené les boys à la maison. Donc effectivement, il reste quand même un. Bon, moi, je pense qu'il est toujours, pour l'instant, il est toujours favori du match face à peu près à tous les candidats démocrate. Mais peut-être, et je pense, là je partage assez l'avis de Charles, je pense qu'il est probablement Biden. Biden, c'est un peu le Canuet, si vous voulez, autrefois. Oui. C'est un centriste.
Le Canuet en mauvaise santé, alors que le Canuet était jeune, avait 35 ans.
Non, mais c'est
un,
ce que je veux dire par là, c'est un homme bien élevé, sympathique, c'est old school, c'est vraiment quelqu'un, vous le recevez chez vous, vous trouverez formidable, il raconte des anecdotes. Alors, simplement, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il a un peu Alzheimer, mais il a de temps en temps un petit peu... Il a quand même dit dans un des États où il a cru qu'il était au Vermont, il était dans le New Hampshire. Il se trompe un peu, quoi. Ouais. Il a un peu ce côté. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres gaffes pendant la campagne.
Je voulais souligner que maintenant, en Amérique, Bloomberg a démontré qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour gagner. Non seulement il n'était pas bon, mais là, il a beau avoir mis 700 millions, je crois qu'il récoltait 4 délégués, ce qui n'est pas beaucoup, ça coûte cher, ça fait cher le délégué.
Cet argent, probablement, une partie en tout cas de cet argent, va aller alimenter les caisses qui étaient vides. Les caisses de Joe étaient vides.
Il a fait cette campagne sans aucun budget, sans faire de pub.
Mais c'est bien ce que j'ai essayé de vous expliquer.
Je dépense de l'argent pour faire battre Trump, mais aussi pour faire battre Sanders. C'est son ennemi. Donc il va soutenir Bernie.
Il va le soutenir. Il reste aussi une inconnue, c'est de savoir ce que fera la dernière autre candidate, Elizabeth Warren.
Qui a été battue chez elle dans le Massachusetts.
C'est lamentable pour une sénatrice du Massachusetts qui a été battue dans son propre
État.
Elle a quand même fait 12-13%.
Gérard.
Et où vont aller ces 12-13%?
Mais Gérard, la presse européenne l'a montée en épingle de manière exorbitante, extraordinaire.
Parce que c'était la seule femme qui avait émergé, en tout cas la principale femme qui avait émergé.
Mais sur le plan de la politique étrangère, Biden ne fera pas autre chose qu'Obama avait fait.
C'est-à-dire qu'il avait
retiré et n'avait pas voulu s'engager, notamment en Syrie.
C'est peut-être ça là où le bas blesse, pardonnez-moi, un petit tour de table rapide sur effectivement ce que peut faire Biden. On est quand même dans le conservatisme, dans le statu quo absolu, sur le système de santé, rien sur la gratuité des études supérieures. Il n'envisage pas de taxer le patrimoine des Américains les plus riches. Il ne faut pas s'attendre avec Biden s'attendent à ce qu'il y ait un...
Non, mais c'est une politique, c'est une politique de gauche, si l'on peut dire démocrate, si on peut considérer la démocrate comme la gauche américaine, mais c'est une politique de gauche extrêmement molle, extrêmement soft.
C'est modéré, jovial démocrate.
Oui, jovial démocrate.
Non, c'est pas un partisan de Thomas Piketty, si vous voulez. Et les acheteurs, justement, vous parliez de... Nous parlions de ça tout à l'heure au moment de la pause. Il faut savoir que les jeunes branchés de gauche des universités américaines, ce sont les principaux supporters de Bernie Sanders.
Bien sûr.
Eh bien, c'est fascinant de vous écouter les grandes voix quand il s'agit des États-Unis aussi. C'est très enlevé ce débat. On se retrouve dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et les grandes voix jusqu'à 19h qui débattent même pendant les pauses. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou ce soir. Ils vous écoutent également au 39-21 en direct pour réagir.
Eh oui, bien sûr. Alors, on est ensemble pour se reparler aussi ce soir du coronavirus parce qu'on entend Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. La vie ne s'arrêtera pas, mais il faut pas croire que ça va s'arrêter là. Le stade 3, on flirte avec. Clairement, voilà ce qu'on nous dit, les politiques nous disent. Et dans le même temps, les médecins nous disent mais les symptômes, finalement, c'est à peine ceux d'une grosse grippe. Alors Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou.
Moi, je voudrais rappeler que la grippe saisonnière qui a lieu chaque année en France et qui affecte entre 2 et 8 millions de personnes, et c'est un virus et ça se transmet par les voies aériennes comme le coronavirus, et il y a, selon les années, entre 6 000 et 10 000 décès. Aujourd'hui, combien de coronavirus en France? Combien affectés? 257 et 4 décès pour l'instant.
Bon. Voilà. Quand on a 72 décès pour la grippe en ce moment, dont 10 enfants.
Dans le monde, 5 à 10% des adultes sont contaminés chaque année. Et en Europe aujourd'hui, le coronavirus touche 3300 personnes dans les 28 pays européens.
Ça se pose là.
Donc,
D'une certaine manière.
Ça se pose mais je veux dire, alors que la grippe a touché entre 5 et 10...
Bien sûr. Oui, mais Catherine, grippe, on la connaît. C'est un phénomène, on est habitué, d'ailleurs on se fait vacciner contre la grippe même, régulièrement, chaque année. Donc on sait ce que c'est que la grippe, on n'a pas peur. On a peur de l'inconnu, sur tous les sujets, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Or là, on a l'impression, on ne peut pas nous dire qu'il y aura un vaccin, donc on a l'impression qu'on est devant quelque chose qui est un mur d'incertitude. C'est ça qui fait une sorte de...
Mais il y a quand même
Charles,
une petite différence. Entre
politique
grippe,
médecin, vous voyez entre, bien la différence de discours.
Oui, non, mais entre la grippe saisonnière et cette grippe-là, qui est une grippe, comme la grippe saisonnière. Simplement, elle semble, si vous voulez, je dirais, avoir comme danger une accélération de la contagion. Cette contagion-là, d'ailleurs, on le verra en France, la propagation de ce virus, s'il s'accélère, c'est à partir de là que Sibeth, la porte-parole du gouvernement, dit, d'ailleurs, on tangente. On n'est pas loin du stade 3, mais on n'y est pas encore, parce que c'est vrai que cette accélération, elle n'est pas aussi rapide, si j'ose dire, qu'en Italie. Où tout d'un coup, ça a flambé. Mais là, c'est la raison pour laquelle ça désoriente les politiques. Ouais.
Mais regardez quand même, Charles, ce médecin contaminé d'une cinquantaine d'années, qui on nous raconte, je n'ai eu aucun symptôme, j'ai eu un petit peu de fièvre une fois à 38, un peu mal à la gorge, à la tête, et puis la fièvre est passée le lendemain, le maux de gorge 3 jours après, les maux de tête 5 jours après, et je n'ai plus rien depuis 3 jours.
Ce qui veut dire que peut-être il y a beaucoup de gens qui en sont atteints du coronavirus, qui voient leur grippe coronavirus qui disparaît et qui ne seront pas testés.
C'est même la majorité, vraisemblablement, parce que ces défenses immunitaires ont parfaitement fonctionné, si vous voulez. Mais la différence entre les médecins et les politiques, elle est essentielle. Les politiques ont des électeurs et ils sont politiquement responsables et juridiquement responsables. Le médecin a des patients. Et il ne rend de compte qu'à ses patients. Il peut rendre des comptes à la justice si le patient se retourne contre lui. C'est vrai. Mais ce qui est essentiel, c'est ça la différence. Mais ce que ne comprennent pas les gens, c'est par exemple, on prend la décision, un préfet prend la décision de fermer les marchés ouverts. Par contre, il laisse le système U, justement, ouvert, par contre, confiné, qui est dans un endroit confiné, et les gens ne comprennent pas.
Oui. C'est ça, si c'est qu'il y a un peu de poids de mesure,
oui,
c'est ça.
Oui, il y a eu, des exemples, pas tant celui-là. Celui-là est pas tant, d'ailleurs, c'était pas un système U, c'était un carrefour. Le carrefour était à vol d'oiseau, à 50 mètres du marché, et on voyait les pauvres gars qui étaient venus depuis 6h du matin, qui étaient obligés de démonter.
Oui, il y a eu un reportage.
Et oui, mais on l'a vu partout. Mmh. Il a tourné en boucle sur les chaînes infos.
Alors,
et
alors,
du coup, on se dit,
qu'est-ce
que c'est pas
alors, comment
Catherine,
et puis on a comment le coronavirus est transmissible et que l'Italie est le pays le plus affecté, puisqu'il y a 2500 cas aujourd'hui.
Absolument.
Mais le gouvernement italien vient seulement aujourd'hui de donner aux Italiens les conseils de se laver les mains toutes les heures, simplement aujourd'hui, alors que le gouvernement a donné ses règles d'hygiène un peu élémentaires, qui valent d'ailleurs pour aussi bien toutes les grippes, les rhumes et autres choses.
Oui, c'est une sorte de béaba. Et l'Italie qui confirme aussi la fermeture des écoles, des universités jusqu'au 15 mars. Hein,
alors je reviens sur les politiques. La plupart de ceux avec qui j'ai dialogué sont tous marqués par l'affaire du sang contaminé,
évidemment.
Où justement, on avait retardé, si vous voulez, juste cette affaire-là, notamment les bons sachets de désintoxication qui pouvaient lutter contre le sang contaminé, cette contamination dangereuse. Plusieurs personnes sont mortes pour des problèmes de déficit de sécurité sociale. Ouais. Et d'ailleurs, le Premier ministre à l'époque avait failli perdre sa réputation. La justice l'a blanchi sur ce plan-là. Laurent Fabius, rappelez-vous.
Bien sûr. Un auditeur est avec nous, Yves, depuis Troyes. Bonsoir à vous, Yves. Bienvenue sur Europe 1.
Merci de prendre mon appel. Je voulais simplement dire que si on peut se féliciter du principe de précaution en vigueur en France, j'ai le sentiment que l'excès d'information et la transparence absolue nous conduit tout simplement à l'anarchie. J'ai l'impression qu'un excès d'information génère naturellement de la désinformation. Je crois qu'il n'est que de consulter les réseaux sociaux aujourd'hui. On est en train d'installer une véritable psychose, une véritable paranoïa.
Donc on, les médias, c'est ce que vous dites en fait ?
Je pense qu'il y a une responsabilité des médias qui actuellement me semble faire de la surenchère. Je n'en dirai pas autant pour ma radio préférée. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, en particulier les chaînes d'info, il y a une surenchère sur le sujet qui crée une véritable psychose. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait indispensable de laisser d'abord les vrais spécialistes s'exprimer et ne pas laisser surtout les politiques s'interférer comme ils le font dans le débat.
En tout
parfois
cas,
avec démagogie d'ailleurs.
Ouais. Merci beaucoup Yves de nous avoir appelé ce soir de Troyes. En tout cas, quand on entend Yves, finalement c'est, j'allais dire, en concordance avec l'avis global des Français qui aujourd'hui se disent inquiets. Mais pas paniquer, selon un des derniers sondages là, sur cette enquête sur le coronavirus. Inquiet, mais pas paniquer, ça veut dire que finalement, on savoir raison garder, c'est aussi
mais là, et
ce qui nous caractérise.
Aussi, ils disent aussi que la crise est plutôt bien gérée.
Enfin, bien gérée
65%,
voilà.
Je crois.
Ouais, ouais. Il y a des fantaisistes quand même, notamment dans les réseaux sociaux, courent sur la Côte d'Azur.
Toujours, non, toujours,
à
Charles.
Cannes, le médecin que j'ai eu tout à l'heure me disait, ça fait 6 patients qui me disent, est-ce que c'est vrai que le sèche-cheveux tue le virus.
Aïe. Ah oui,
bon,
on va loin là.
Parce qu'il y a un développement justement sur, le...
oui,
mais
sur la
Yves,
température.
Yves a fait une très bonne remarque dont nous devons tenir compte.
Voilà, exactement. Oui. Donc savoir raison garder et savoir faire le tri. Et lavez-vous les mains quand même. Merci les grandes voix. Merci à vous.